La mauvaise année.
Vous dites bien, Archambault, et je ressens comme vous. Voilà 10 jours seulement que nous sommes partis de Périgueux, et c'est comme si nous courions depuis un mois. Le voyage allonge le temps. Ce soir, nous coucherons à Châteauroux. Je ne vous cache point que je ne serai pas fâché demain d'arriver à Bourges, si Dieu le veut, et de m'y reposer 3 grands jours, pour le moins, et peut-être 4. Je commence à être un peu las de ces abbayes où l'on nous sert maigre chair, et où l'on bassine à peine mon lit pour bien me donner à entendre qu'on est ruiné par le passage de la guerre. Qu'ils ne croient pas, ces petits abbés, que c'est en me faisant jeûner et dormir au vent coulis qu'ils gagneront d'être exemptés de finances. Et puis les hommes d'escorte ont besoin de repos, eux aussi, et de réparer les harnois et de sécher leurs habits. Car cette pluie n'arrange rien. À écouter mes bacheliers éternuer autour de ma litière, je gage que plus d'un va occuper son séjour de Bourges à se soigner à la cannelle, à la girofle et au vin chaud. Pour moi, je ne pourrais guère muser, dépouiller le courrier d'Avignon, dicter mes missives en retour. Peut-être vous surprenez-vous, Archambault, des paroles d'impatience qu'il m'arrive de laisser échapper au sujet du Saint-Père. Oui, j'ai le sang vif et montre un peu trop mes dépits. C'est qu'il m'en donne gros à mâcher. Mais croyez que je ne me prive guère de lui remontrer à lui-même ses sottises. Et c'est plus d'une fois qu'il m'est arrivé de lui dire « Veuille la grâce de Dieu, très Saint-Père, vous éclairer sur la bourde que vous venez de commettre. » Ah, si les cardinaux français ne s'étaient pas soudain butés sur l'idée qu'un homme né comme nous le sommes ne convenait point, l'humilité. Il fallait être né dans l'humilité. Et que d'autre part les cardinaux italiens, le Capocci et les autres, avaient été moins obstinés sur le retour du Saint-Siège à Rome. Rome, Rome, ils ne voient que leurs états d'Italie. Le Capitole leur cache Dieu. Ce qui m'enrage le plus chez notre Innocent, c'est sa politique à l'endroit de l'empereur. Avec Pierre Roger, je veux dire Clément VI, nous nous sommes arc-boutés 6 ans pour que l'empereur ne fût point couronné. Qu'il fût élu, fort bien. Qu'il gouvernât, nous y consentions. Mais il fallait conserver son sacre en réserve, tant qu'il n'aurait pas souscrit aux engagements que nous voulions qu'il prît. Je savais trop bien que cet empereur-là, au lendemain de l'onction, nous causerait des boires. Là-dessus, notre Aubert coiffe la tiare et commence à chantonner « Concilions, concilions ». Et au printemps de l'année passée, il parvient à ses fins. « L'empereur Charles IV sera couronné, je l'ordonne », finit-il par me dire. Le pape Innocent est de ces souverains qui ne se découvrent d'énergie que pour battre en retraite. Nous avons foison de ces gens-là. Il imaginait avoir remporté grande victoire parce que l'empereur s'était engagé à n'entrer dans Rome que le matin du sacre pour en ressortir le soir même et qu'il ne coucherait pas dans la ville. Vétille. Le cardinal Bertrand de Colombier, vous voyez, je désigne un Français, vous devez être satisfait, fut expédié pour aller poser sur le front du bohémien la couronne de Charlemagne. 6 mois après, en retour de cette bonté, Charles IV nous gratifiait de la bulle d'or, par quoi la papauté n'a plus désormais ni voix ni regard dans l'élection impériale. Désormais, l'Empire se désigne entre 7 électeurs allemands qui vont confédérer leurs États, c'est-à-dire qui vont faire règle perpétuelle de leur belle anarchie. Cependant, rien n'est décidé pour l'Italie. Et nul ne sait vraiment par qui et comment le pouvoir s'y va exercer. Le plus grave en cette bulle, et qui ne s'en a pas vu, c'est qu'elle sépare le temporel du spirituel, et qu'elle consacre l'indépendance des nations vis-à-vis de la papauté. C'est la fin, c'est l'effacement du principe de la monarchie universelle exercée par le successeur de Saint-Pierre au nom du Seigneur Tout-Puissant. On renvoie Dieu au ciel, et l'on fait ce qu'on veut sur la terre. On nomme cela l'esprit moderne, et l'on s'en vante. Moi, j'appelle cela, pardonnez-moi mon neveu, avoir de la merde sur les yeux. Il n'y a pas d'esprit ancien et d'esprit moderne. Il y a l'esprit tout court, et de l'autre côté, la sottise. Qu'a fait notre pape? A-t-il tonné, fulminé, excommunié? Il a envoyé à l'empereur une missive fort douce et amicale, pleine de ses bénédictions. Ah non, ce n'est pas moi qui l'ai préparée. Mais c'est moi qui vais devoir, à la diète de Metz, entendre solennellement publier cette bulle qui renie le pouvoir suprême du Saint-Siège et ne peut apporter à l'Europe que troubles, désordre et misère. La belle couleuvre que je dois avaler, et de bonne grâce en plus. Car à présent que l'Allemagne s'est retirée de nous, il nous faut plus que jamais tenter de sauver la France, autrement il ne restera plus rien à Dieu. Ah, l'avenir pourra maudire cette année 1355. Nous n'avons pas fini d'en récolter les fruits épineux. Et le Navarrais, pendant ce temps, eh bien, il était en Navarre, tout charmé d'apprendre qu'aux brouilles et embrouilles qu'il nous avait faites s'ajoutaient celles qui nous venaient des affaires impériales. D'abord, il attendait le retour de son friquet de Fricamp, parti pour l'Angleterre avec le duc de Lancastre, et qui s'en revenait avec un chambellan de celui-ci, porteur des avis du roi Édouard sur le projet de traité, ébauché en Avignon. Et le chambellan s'en retournait à Londres, accompagné cette fois de Colin Doublel, un écuyer de Charles le Mauvais, un autre des meurtriers de Monsieur d'Espagne, qui allait présenter les observations de son maître. Charles de Navarre est tout le contraire du roi Jean. Il s'entend mieux qu'un notaire à disputer de chaque article, chaque point, chaque virgule d'un accord, et rappeler ci, et prévoir ça, et s'appuyer sur telle coutume qui fait foi, et toujours cherchant à raboter un petit ses obligations, et à augmenter celles de l'autre partie. Et puis, en tardant à cuire son pain avec l'anglais, il se donnait loisir de surveiller celui qu'il avait au four du côté de la France. C'eût été l'heure pour le roi Jean de se montrer coulant, mais cet homme-là, pour agir, choisit toujours le contretemps. Faisant le redomont, le voilà qui s'équipe en guerre pour courir sus à un absent, et, se ruant à Caen, ordonne de saisir tous les châteaux normands de son gendre, Fort et Vreux. Belle campagne, qui, à défaut d'ennemis, fut surtout une campagne de festin, et mit fort en déplaisir les Normands qui voyaient les archers royaux piller leurs saloirs et garde-manger. Cependant, le Navarrais levait tranquillement des troupes en Saint-Navarre, tandis que son beau-frère, le comte de Foix, Phébus, un autre jour je vous parlerai de celui-là, ce n'est pas un mince seigneur, s'en allait ravager un peu le comté d'Armagnac pour causer nuisance au roi de France. Ayant attendu l'été, afin de prendre la mer au moindre risque, notre jeune Charles débarque à Cherbourg un beau jour d'août avec 2000 hommes. Et Jean II est tout ébaubi d'apprendre, dans le même temps que le prince de Galles, qui avait été fait en avril prince d'Aquitaine et lieutenant du roi d'Angleterre en Guyenne, ayant monté 5000 hommes de guerre sur ses nefs, s'en venait à pleine voile vers Bordeaux. Encore avait-il dû attendre des vents propices. Alors on peut dire que son renseignement est bien fait au roi Jean. Nous, d'Avignon, nous voyions s'apprêter ce beau mouvement croisé sur la mer afin de prendre la France en tenaille. Et l'on annonçait même l'imminente arrivée du roi Édouard lui-même, lequel eût déjà dû être à Jersey si la tempête ne l'avait contraint de rebrousser sur Portsmouth. Et on peut dire que ce fut le vent et rien d'autre qui sauva la France l'an dernier.